voici Valou qui répond à tout. À toutes les questions que vous lui posez sur l'application Manu dans le 6-10. Oui, je t'en prie.
On commence par une question bien séance.
Est-ce que tu pourrais me dire d'où vient le sens des couverts à table ? Parce que moi, à chaque fois, je me fais gronder quand je mets la table. Moi, je m'en fous, je les mets à droite, à gauche. L'essentiel, c'est que t'as des couverts, non ?
Oui, c'est pas con ce qu'il dit. Mais c'est vrai que le c'est pas logique, le couteau à droite.
Pourquoi non, ce n'est pas logique ?
Le couteau, non.
Fourchette à gauche, couteau à droite.
Oui, c'est ça.
Le tranchant vers l'assiette, exactement. Et la cuillère sur.
Parce que a priori, on va prendre on y a plus de droitiers, on va dire. Donc, ça serait logique qu'on prenne la fourchette de la main droite.
Eh bien, figure-toi que la fourchette n'est arrivée qu'au 11e siècle. Avant, on avait une grande cuillère et on avait le couteau, sûrement. Et en fait, le couteau, on considérait que la fourchette était un outil d'assistance. C'est-à-dire qu'elle servait à planter notre viande et on avait besoin de notre main droite. Donc, la majorité des gens sont droitiers.
Ah, pour couper.
Pour couper, exactement. Et on a besoin de dextérité et de précision. D'où l'intérêt de mettre le couteau à droite. Mais la fourchette à l'origine n'existait pas. Elle servait à rien. C'était juste pour servir les plats en fait. On n'en mettait pas à table.
Oui, d'accord, mais comment tu faisais? T'avais de la viande. Comment tu faisais pour couper et la manger?
J'utilisais plus les mains, je pense.
Les mains.
Ouais. C'est ça.
Oui, c'est compliqué de couper sans bloquer le. Ah, ça servait pour piquer.
Ouais.
Pour bloquer.
Exactement.
Et après, il mangeait, il prenait avec la main.
Ça, tu pouvais, ouais, ça.
Je trouve ça cool.
Donc voilà. Et t'aimes bien l'idée?
Ouais, je trouve ça le truc sympa.
Après, vous avez le droit si vous invitez un gaucher chez vous, vous avez le droit d'inverser les couverts. Ça se fait discrètement, par contre.
Ah.
Ça, c'est classe, quand même.
Voilà. Tu t'es trompé. Non, il est gaucher. Bim! Prends ça dans la face. Une autre info.
Julie s'interroge sur un insecte.
Petite question. Pourquoi les papillons nuits sont-ils attirés par la lumière?
Eh ben oui. Mais ça, c'est vrai.
On les voit souvent tournoyer autour de l'ampoule.
Il n'y a pas que les papillons de nuit, j'ai l'impression qu'il y a plein de bêtes qui sont attirées par la lumière.
Plein d'insectes. Et ils ont un point commun. C'est qu'en fait, les papillons de nuit confondent la lueur des ampoules électriques avec celle de la lune. La lune, en fait, leur sert habituellement de point d'orientation pour les insectes nocturnes de façon plus générale.
Oui.
Et la lune, en fait, elle est tellement haute que c'est un point fixe. Et avec la lune, ils vont se guider. Donc la trajectoire qu'ils vont adopter, c'est grâce à la lune. Et le problème, quand il y a une ampoule, par exemple, qui vient, eh ben, ils vont croire que c'est la lune.
Oh, les cons. Ah.
Et c'est pour ça, en fait, qu'ils tournent en rond. Parce qu'en fait, vu que la lune, normalement, ne bouge pas, l'ampoule, elle fait que bouger quand ils se déplacent dans une pièce. Donc, ils deviennent fous, en fait. Et ils tournent pour avoir toujours la lune au même endroit.
Ah, mais c'est terrible.
Ouais, là, ouais. Ça les rend fous, quoi.
En fait, on est méchant avec les insectes en ayant de la lumière.
Bah, ils disent pourquoi la lune bouge d'un coup, quoi. Moi, je suis habitué à un point qui est toujours fixe dans le ciel, et là, ça fait que bouger.
Mais alors, pourquoi quand on est dehors et qu'il y a de la lumière, ils vont tourner autour de la lumière alors qu'il y a la lune et ils la voient?
Parce que c'est le point le plus proche, je pense, c'est le plus fort. Du coup, ils vont aller vers la lumière.
Mais
quoi.
Comment ils font les insectes quand il n'y a pas de lune et qu'il y a des nuages?
Bah, ça, j'en sais rien. Ils restent tranquilles, je pense qu'ils se posent.
Je vais m'enseigner. Ah, quand ils bougent vers la lune, putain.
Ouais.
Oh, c'est quoi? J'ai de la peine.
Ouais, moi aussi, ça m'a fait un peu de peine, mais du coup, j'en ai appris une belle.
Parce qu'on s'en rend pas compte, quoi. On allume la lumière, le papillon, il est là, au lieu de se dire, on devrait éteindre la lumière pour le laisser aller, en fait.
Oui, c'est prenons ça. Des bougies, peut-être.
Ah ouais, mais vous, il risque de se cramer dessus après. S'il croit que c'est la lune et qu'il va se brûler.
Ouais, Isabelle.
Ah oui, non, c'est pas.
L'enfer est pavé de bonnes intentions. Une dernière question.
Une question sur un terme qui peut en cacher un autre.
Bonjour, j'ai une question. Pourquoi dit-on hôtel de ville et hôtel de police?
Bah oui. Ah oui, c'est vrai, on dit ça.
Quand on parle d'hôtel, on pense surtout à l'établissement commercial d'hébergement touristique.
L'hôtel.
Mais un hôtel, c'est aussi un domicile particulier. Ça peut être un hôtel particulier. C'est une belle maison. Et c'est avant tout un établissement recevant du public. Puisque ça vient du latin, hospes hospitis.
Hospes hospitis, hospitalum, hospitalae, hospitalares, hospitali. Si. Et du grec, hospitalos.
Qui signifie l'hôte, en fait. Hospes hospitalis, ça veut dire l'hôte.
Oui.
Et à la Renaissance, l'hôtel, ça devient la demeure où il y a un personnage officiel. Donc ça peut être le roi, ça peut être la famille du roi, donc un lieu de pouvoir. Et donc ensuite, ça devient l'hôtel de ville, puisqu'on reçoit des gens dans l'hôtel de ville, et ça devient un lieu qui reçoit du public, plus globalement.
D'accord.
Donc l'hôtel des monnaies, l'hôtel des impôts, l'hôtel de police, il y a plein d'hôtels, en fait.
Oh.
Et voilà, tout est hôtel, c'est un lieu qui reçoit du public, l'hôtel.
Merci. Du latin, hostalum, stalum, hostalae, hostalarum.
Hostalarum.
Hostalapitis en grec. Pas en vieux grec.
Oui, évidemment,
bien sûr. Ouais. Merci pour toutes les infos.
Avec plaisir.